enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Déception au miracle. Et on va dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici. » Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Voilà donc une histoire qui se passe au temps des rois d'Israël avec le prophète Élisée. Et une femme de distinction donne l'hospitalité au prophète. Elle sait que c'est un prophète, elle sait que c'est un homme de Dieu, même un saint homme de Dieu. Elle a du respect pour cet homme, parce qu'elle sait qu'en honorant cet homme, c'est Dieu qu'elle honore. Et qu'en bénissant cet homme, eh bien, c'est Dieu, c'est le nom de Dieu qu'elle élève et qu'elle bénit. Alors elle le reçoit chez elle, à tel point qu'elle va demander à son mari même de construire une chambre de passage, une chambre d'amis réservée au prophète. Et elle va donc le recevoir chaque fois qu'il passe dans ce lieu. À tel point que le prophète va vouloir exprimer sa reconnaissance et dire « Merci pour l'hospitalité que tu manifestes envers nous. Est-ce qu'il faut que je parle au roi ou au chef de l'armée ?» Si quelqu'un venait vous voir ce matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire comme faveur pour toi ?» Est-ce qu'il faut que je parle au premier ministre? Est-ce qu'il faut que je parle à tel président d'entreprise? Est-ce que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour trouver du travail? Pour rentrer dans... Est-ce que tu veux que je parle à quelqu'un d'influent pour te trouver une bonne place? Certains diraient, moi j'aimerais bien ça, qu'on puisse parler à un chef d'entreprise, là je ne sais pas, à Calimex ou je ne sais pas où, pour me retrouver directement au dernier échelon. Ça ne vous intéresserait pas? Avoir un coup de pouce, je ne sais pas comment on dit, oui, j'allais dire du piston, mais ça ne marche pas pareil ici. Mais voilà que cette femme répond non. C'est une femme de distinction, mais elle dira, j'habite au milieu de mon peuple. C'est une femme qui est humble, c'est une femme qui est contente de ce qu'elle a. Elle veut dire, je n'ai pas besoin que tu parles de moi ou de nous auprès du roi ou auprès du chef de l'armée. C'est correct comme ça. Je me contente de ce que j'ai. Alors Élisée va dire à son serviteur, mais est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour elle? Et son serviteur va lui dire, mais regarde, elle n'a pas de fils. Et son mari commence à être âgé. Alors voilà qu'Élisée va venir lui faire une promesse, une promesse, une bénédiction. Et c'est le mot qui manque dans votre bulletin, vous pouvez l'inscrire. Si vous n'avez pas de stylo, levez la main, on va vous en prêter un. On veut vraiment que vous puissiez repartir avec un mot dans le bulletin. Alors, si vous n'avez pas de stylo, gardez la main ouverte tant que vous n'avez pas de stylo. Il arrive, il s'en vient. Une promesse, une bénédiction. Quand une femme est là, stérile, une femme n'a pas de fils, c'était tout un drame dans la culture de l'époque et aujourd'hui encore. Mais voilà que Élisée fait une promesse, tu auras un fils l'année prochaine à la même époque. Et c'est l'homme de Dieu qui fait cette promesse à cette femme. Et quelle est sa réaction ? Arrête tes menteries. C'est ça ? Ne me trompe pas. Elle se méfie. Elle est méfiante. C'est le mot qui m'a... Vas-y. La méfiance de la Tsunamite. Elle habite Tsunem, donc c'est une Tsunamite. La méfiance de la Tsunamite. Parce qu'elle disait, j'ai manqué le verset, mais c'est 2 Rois, chapitre 4, verset 16, alors que Élisée dit, à l'année prochaine, tu embrasseras un fils, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. La version Tob a traduit ainsi, le verset, la diapo d'après, à la même époque, l'an prochain, tu serras un fils dans tes bras. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. Est-ce qu'il est en train de dire un mensonge ? Dites-moi, est-ce qu'elle a la foi, cette femme ? Est-ce qu'elle croit ? Eh, c'est des mensonges que tu me dis, là. Ne me trompe pas. Ne dis pas de mensonge. Dans la Bible, en français courant, on a traduit ça encore différemment. Élisée déclara, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle s'écria, c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Bref, cette femme croit bien que Élisée est un prophète, mais elle ne croit pas qu'elle pourra avoir un fils à pareille époque l'année d'après. Elle dit, moi je crois que tu es un homme de Dieu, je crois que tu es un prophète, mais ça c'est impossible dans ma vie. Des gens comme cette femme, il y en a plein au milieu de nous. Non ? En tout cas pas moi, c'est ça ? Peut-être mon voisin là, mais pas moi. En tout cas, quelqu'un qui dit, je crois que c'est vrai, je crois que tu es vrai. Je crois que la parole de Dieu, c'est vrai. Je crois que ce qui est prêché dans cette église, c'est vrai. Je crois que le nom de Jésus est grand, élevé, puissant. Je crois que la parole de Dieu, elle est vivante. Mais ça, c'est impossible. Ça marche pas pour moi. Ça peut pas marcher pour moi. Un pareil miracle dans ma vie, et combien vivent la même chose au milieu de nous. Ou peut-être certains l'ont déjà vécu en disant, c'est vrai, j'étais comme ça aussi. Je croyais que la parole de Dieu, c'était vrai. Je chantais des beaux cantiques à l'église, je levais les mains au ciel, et quand je me suis retrouvé devant un obstacle, une difficulté, j'ai dit comme cette femme, c'est impossible. C'est impossible, ne dis pas de mensonge. Est-ce que la parole de Dieu quand même, est-ce que ce serait possible que telle chose arrive dans ma vie ? Ça peut être face à la maladie, ça peut être face à toutes sortes d'affaires, cette femme a du mal à croire. Et elle dit au prophète dans sa méfiance, c'est impossible, mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Quand Élisée parle, c'est pas le prophète, c'est pas la parole du prophète. C'est la parole de Dieu dans la bouche du prophète. De la même manière, lorsque nous lisons la Bible, c'est pas la parole de Moïse. Ce n'est pas la parole de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et voilà pourquoi le texte nous dit que cette femme devint enceinte. C'est le verset, la femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Élisée lui avait prophétisé. Selon la parole de Dieu, qu'elle aurait un fils, et l'année d'après, elle a eu un fils. Mais une déception s'en vient. Et on va lire ensemble la suite du récit. Donc on était rendu à 2 Rois, chapitre 4, verset 18. Vous n'avez pas fermé votre Bible ? Sinon, il faut retrouver la page. 2 Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit. Bon, il s'est passé du temps là. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha et la repoussa. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Et tu, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Et elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Voilà qu'un matin, le jeune enfant va voir son père dans les champs et il y a une douleur subite dans sa tête. « Ma tête, ma tête. » Alors le père renvoie cet enfant près de sa mère. Elle le garde sur ses genoux pendant plusieurs heures, jusqu'au moment où il meurt dans ses bras. Quelle aurait été votre réaction en pareille circonstance? Déçu, Dieu a donné un fils à cette femme et voilà que maintenant il meurt dans ses bras, soudainement. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'imprudence. Sa tête lui a fait mal et en quelques heures, il est mort. Cette femme réagit d'une manière différente peut-être que bien d'entre nous réagissons. Elle dit, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Comprenez qu'on est au temps des prophètes ici, il n'y a pas la même communion qu'on peut avoir Dieu qu'aujourd'hui. La même communion que nous, on peut avoir. Ils n'avaient pas ce même privilège. Ils devaient donc passer au travers de sacrificateurs, au travers du prophète. Et en allant vers le prophète, elle va chercher le secours de Dieu. Et elle va vers cet homme de Dieu en disant, « J'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Elle va le chercher. Et son mari lui dit, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu veux voir le prophète? Est-ce que tout va bien ?» Elle répond, « Tout va bien. » En d'autres termes, c'est une affaire entre moi et lui. C'est une affaire entre Dieu et moi. Elle ne dit pas aux autres, voilà ma déception, voilà mon amertume, voilà ce que j'ai dans le cœur, voilà toute la douleur que j'ai dans le cœur. Elle dit, avant d'en parler à son mari, je veux en parler à Dieu. Avant même d'en parler à qui que ce soit, je veux chercher la présence de Dieu et savoir ce que Dieu a à me dire en pareille circonstance. Cette femme n'est pas allée déverser son amertume et sa douleur sur son mari. Elle dit, je veux déjà voir ce que Dieu a à dire en pareille circonstance. Et voyez-vous, des fois, nous sommes dans des situations qui nous attristent, des situations où il y a la douleur, des situations où il y a la déception. Est-ce que notre premier réflexe, c'est d'aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Elle dit à son mari, tout va bien. Elle part rejoindre le prophète qui est sur la montagne du Carmel. Comprenez que c'est tout un voyage. Et elle arrive là. Le prophète la voit venir de loin. Il envoie son serviteur en lui posant cette question. Demande-lui ce qui se passe, pourquoi elle vient. Demande-lui est-ce que tout va bien. Et vous savez, les salutations de coutume, comment ça va chez toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ton enfant se porte bien? Et elle répond, oui, il se porte bien. Elle dit au serviteur, c'est pas à toi que je veux parler, c'est au prophète. Et elle répand pas son cœur. Et comprenez que souvent, peut-être, nous faisons l'erreur de dire tout ce que nous avons sur le cœur à tout le monde avant même d'en parler à Dieu. Non? Cette femme, elle dit, je veux déjà savoir ce que Dieu a à me dire. Et elle dit, tout va bien. Elle dit, tout va bien aussi, certainement parce qu'elle croit que l'histoire n'est pas finie. Est-ce que vous pensez qu'elle dit, tout va bien, parce qu'elle, c'est comme une parole de foi, en croyant au miracle, il y a la déception, mais il y a aussi le miracle. Quand elle est arrivée vers le, je ne suis plus trop médiapo, mais on va l'afficher quand même la suivante. Quand elle est arrivée vers le prophète, elle a dit, ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Donc il y avait vraiment dans son cœur un sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Et même le prophète, si vous avez remarqué dans la lecture, a dit, je vois l'amertume. Il y a cette amertume, mais il y a un miracle qui s'en vient. Et c'est l'autre point. Il y a la déception d'un côté, et il y a le miracle de l'autre. Cette femme a eu une parole de foi, une parole prophétique. C'est la parole, c'est une parole de foi. Lorsque elle dit à son mari, tout va bien, c'est le verset suivant. Lorsqu'elle dit à son mari, tout va bien. C'est pas seulement, ça te regarde pas. Elle pourrait dire, il y a un problème, mais je veux pas t'en parler. Elle dit, tout va bien. Est-ce qu'on peut dire « tout va bien » lorsque son fils vient de mourir dans ses bras? Est-ce que l'on peut dire au serviteur du prophète « mon fils se porte bien » alors qu'elle sait qu'elle l'a laissé coucher malade, mort. Bon, je dis malade, il était mort. Elle l'a laissé coucher et mort sur son lit. Mais elle dit « tout va bien ». J'ai la conviction que cette femme croyait que cet enfant pouvait revenir à la vie. Non? On parle de qui là? On parle d'Élisée. Élisée succède à Élie. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire comme ça avec Élie déjà? Avec cette veuve de Sarepta, qui elle aussi a eu un fils qui est mort, qui elle aussi a exercé l'hospitalité envers le prophète Élie, et son fils est mort. Le prophète Élie, avec la puissance de Dieu, a ressuscité son fils. Cette femme, cette tsunamite, connaît-elle cette histoire? Peut-être. Et elle se dit, c'est déjà arrivé dans le passé, qu'un prophète ressuscite le fils. Et là, elle vient vers le prophète en disant, je t'avais prévenu que je ne voulais pas souffrir, que je ne voulais pas être meurtrie, que je ne voulais pas être trompé. Je ne voulais pas que tu me fasses du mal avec une parole qui ne s'accomplit pas. Quand elle l'a dit au prophète, ne dis pas de mensonge, ça veut dire ne dis pas une parole qui ne s'accomplit pas. Vous savez, dans les derniers temps, dit l'apôtre Paul, il y aura toutes sortes de faux prophètes. Et même, Jude nous parle de ces prophètes qui sont comme des nuées sans eau. Combien de prophètes aujourd'hui sont capables de prophétiser toutes sortes d'affaires qui ne s'accomplissent pas et qui amènent toute une déception. Lorsque quelqu'un vient te dire « T'inquiète pas, tu seras guéri dans 3 semaines » et dans 3 semaines, tu es toujours malade, tu dis « Où est la parole de Dieu ?» Non ? Quand quelqu'un vient t'annoncer toutes sortes de prophéties qui ne s'accomplissent pas, eh bien, ça vient mettre en toi de la déception, de l'amertume. Mais le prophète avait dit à cette femme, l'année prochaine, tu auras un fils. Et l'année prochaine, elle avait un fils dans ses bras. Il ne l'a pas trompée. Mais voilà que maintenant, ce fils est mort. Et elle se dit, ça ne valait pas la peine que tu me donnes un fils pour qu'il meure maintenant. C'est ce qu'elle est en train de dire au prophète. Ça ne valait pas la peine que tu me bénisses pour reprendre ma bénédiction maintenant. On a lu la fin de l'histoire et on a vu qu'à la fin de l'histoire, le fils est toujours vivant. Non ? Cette femme a fait un choix. Elle a décidé de la fin de l'histoire. Elle aurait pu rester chez elle et se lamenter sur son sort. Elle aurait pu rester chez elle et de dire « Pourquoi qu'ai-je fait à Dieu pour mériter telle affaire ?» Elle aurait pu se plaindre de son sort en disant « Le prophète m'avait dit que j'aurais un fils, il me l'a donné, mais Dieu me l'a repris. » Combien de personnes aujourd'hui encore lèvent le poing contre Dieu dans toutes sortes d'affaires en disant « Dieu m'a fait du mal, Dieu m'a repris ce que j'avais, il m'a repris mon fils, il m'a repris telle affaire, il m'a béni un jour et il m'a repris ce qu'il m'avait donné l'autre jour. » C'est ça ? Cette femme est amère, il y a de l'amertume. En ce qui nous concerne, est-ce qu'on ouvre la bouche tout de suite contre Dieu ? Est-ce qu'on parle tout de suite aux autres de la déception et de l'amertume qu'on a dans notre cœur ? Ou est-ce qu'on est capable de dire « Tout va bien, je veux entendre ce que Dieu a à me dire ». Si cette femme a pu dire « C'est impossible », lorsque le prophète lui a dit « Tu auras un fils », elle ne dit plus la même chose maintenant. Elle a des paroles de foi dans sa bouche. Et elle va voir le prophète parce qu'elle croit qu'il y a de l'espoir en allant chercher Dieu. Elle dit, mon fils est mort. Vous savez, quand on lui a annoncé, écoute, tu vas avoir un fils, elle dit, c'est impossible. Nous, on pourrait dire, impossible, c'est pas trop. Peut-être que c'était juste un problème et puis ça s'est débloqué. Mais en tout cas, là, il est mort, le fils. Là, c'est vraiment impossible qu'il ressuscite, non ? Non ? Tu dis à... Tu regardes ta voisine ou ton voisin, tu dis à ta voisine plutôt, tu auras un fils l'année prochaine, tu dis, c'est impossible. Certains disent, non, c'est impossible. Ils diront, mais peut-être, une possibilité, là. Non ? Mais si on parle d'une résurrection des morts, on dit, mais non, là, c'est pas possible. Cette femme ne croyait pas qu'elle allait avoir un fils, mais elle l'a eu. Et ça a fait grandir sa foi. Et maintenant, elle va vers l'homme de Dieu en croyant que ce qui est impossible est possible. Parce que la parole de Dieu a touché son cœur. Parce qu'elle a expérimenté la parole de Dieu. Elle vient vers le prophète en disant, « Je sais qu'avec Dieu, tout va bien. Je sais qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est impossible aux hommes, mais avec Dieu, tout est possible. » Même la résurrection de son fils. Et elle a le témoignage de ce qui s'est passé à Sarepta avec Élie, qui vient là encore faire grandir sa foi. Tout est possible à Dieu. Alors quand elle arrive, elle dit à l'homme de Dieu, « Pourquoi est-ce que tu m'as donné un fils pour qu'il soit repris ?» Et la réaction du prophète Élisée, ça veut dire, « T'inquiète pas, on va régler la situation. » Quelque part, c'est ce qu'il lui dit, en disant à son serviteur, « Prends mon bâton, prends le bâton du prophète et pose-le sur le mort. » Et quelque part, c'est comme s'il y avait 3 petits points de suspension qui disaient, « Et le mort va ressusciter. » Pourquoi poser un bâton de prophète sur un mort ? C'est pour qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Et cette femme dit, « Ça ne me suffit pas. Je ne te lâche pas, je ne te quitte pas. je reste avec toi, c'est toi que je veux. Je ne veux pas ton serviteur, là. Bon, c'est peut-être ton bâton, mais c'est toi qui m'as dit que j'aurais un fils, et c'est toi que je veux voir maintenant dans la chambre avec mon fils. Voyez la détermination que peut avoir cette femme. Est-ce qu'on a la même détermination avec Dieu? Est-ce qu'on vient dans la présence de Dieu en disant, c'est toi que je veux, c'est ta présence, c'est ta parole, c'est ta présence que je veux. Et Dieu peut dire, je vais t'envoyer mon serviteur. Tu dis, non. Merci pour les serviteurs que Dieu nous envoie. Non? Allô? Bon. Mais pas simplement dire, je veux m'appuyer sur eux. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux rester dans la présence de Dieu. Et cette femme dit, je ne te quitterai pas. Alors, Élisée accepte de venir avec elle dans la chambre où est le mort. Et là, si vous lisez l'histoire d'Élie dont j'ai fait référence tout à l'heure, vous verrez qu'il y a une similitude. Et de la même manière que Élie s'était posé sur le corps de ce fils, eh bien, Élisée va faire la même chose. Et la vie va revenir dans le corps de cet enfant. Et c'est tout un miracle, une résurrection. Et certains se posent la question ce matin certainement, pourquoi? Pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que cet enfant ce matin-là a eu mal à la tête? Notez bien que le texte n'a jamais dit que c'est Dieu qui a tué cet enfant. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Dieu qui a repris cet enfant. Et je ne sais pas pourquoi on a la mauvaise habitude dans la société dans laquelle nous sommes que quand quelqu'un est mort, on dit « c'est Dieu qui me l'a pris ». Non ? J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes parents. C'est Dieu qui me les a pris. Quoi ? Il les a volés ? Est-ce que c'est Dieu qui te les a pris, qui te les a ôtés ? Qui a voulu te faire de la peine, qui a voulu te faire du mal. Cet enfant est mort, mais ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Un jour ou l'autre, on devra mourir, nous. Non? Si on dit Dieu, oublie-moi, je ne vais jamais mourir comme ça. C'est sûr que rien ne se passe sans l'approbation de Dieu. Dieu est en contrôle et Dieu demeure souverain. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu de faire de la peine, de faire du mal et d'amener de l'amertume dans le cœur. Mais la fin de cette histoire amène de la joie dans cette maison, amène de la crainte de Dieu. Cette femme se prosterne, cette femme adore Dieu et cette femme reconnaît que Dieu est fort, que Dieu est vivant, que Dieu est puissant. Il y avait cette semaine dans le journal La Presse un sondage sur le bonheur. Est-ce que les Québécois sont heureux, à votre avis? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'argent, ce n'est pas la chose la plus importante. Pour eux, le bonheur, c'est déjà le temps. Il faut avoir du temps. Et il y avait toutes sortes d'informations là-dedans. Et il y avait le témoignage d'une femme qui a un enfant handicapé à la naissance. Et qui parle de bonheur. Et elle dit, c'est souvent derrière un malheur que l'on voit le bonheur. Que quand le malheur nous touche, qu'on est capable d'apprécier notre bonheur. Et voyez-vous, Dieu des fois permet que certaines choses nous arrivent pour qu'on puisse en apprécier d'autres et réaliser ce que nous avons vraiment. En conclusion, quelle est notre réaction face à l'épreuve? Lorsque nous sommes éprouvés, lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui se produit dans notre vie, quelle est notre réaction face à l'épreuve? Est-ce que notre réaction, c'est la déception? C'est l'amertume? Est-ce que notre réaction, c'est de lever le poing contre Dieu en disant « Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» Est-ce que c'est de s'apitoyer sur notre sort en disant « malheureux que je suis le plus malheureux des hommes, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là. » Et je sais qu'il y a des situations qui sont douloureuses et difficiles. Ou est-ce que notre réaction, c'est le miracle? Mais certains vont dire, oui, mais là, vous parlez de la mort qui est ressuscitée. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il faut qu'on croie que Dieu va le ressusciter? Écoutez, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais même s'il n'y a pas de résurrection, il peut y avoir tout un miracle pareil dans votre cœur. Une résurrection dans votre cœur. Et que ce ne soit pas un parfum d'odeur, un parfum avec une odeur de mort, mais avec une odeur de vie. Et ne pas prendre les choses qui nous entourent, les malheurs, les épreuves que l'on peut traverser, que la vie des fois nous fait traverser, prendre ça comme des déceptions et de l'amertume, mais voir l'opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester. Un jour, les disciples de Jésus ont vu un aveugle sur le bord du chemin. Et cet homme était né aveugle. Imaginez, pour un couple, leur enfant vient de naître, il est aveugle. Alors les disciples posent la question à Jésus, mais pourquoi cet enfant est-il né aveugle? C'est quoi le sens? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'une telle chose arrive? Jésus ne va pas rentrer dans toutes sortes de discussions théologiques ou philosophiques. Il va simplement dire, si cet enfant est né aveugle, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et il va guérir cet enfant. Je connais l'histoire d'un pasteur en France, à Bordeaux. Il était syndicaliste, communiste, et il ne croyait pas en Dieu. Mais son enfant était aveugle. Et ce matin-là, sa femme sortait de chez elle avec l'enfant dans les bras, avec la ferme intention de se jeter dans la rivière pour se suicider. Et quand elle sort, sa voisine lui parle de Dieu, d'un Dieu grand, d'un Dieu puissant. Et voilà que ce couple qui était contre Dieu, athée, communiste, Dieu n'existe pas, et bien voilà que face au malheur, ils vont prier. Ils vont dire, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Évidemment, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que Dieu a guéri cet enfant. Et cet enfant a été guéri alors qu'il est né aveugle. Il y avait le choix dans cette situation, d'une déception ou d'un miracle. Le miracle peut être physique, le miracle peut avoir lieu d'une autre manière, mais Dieu veut que chaque situation puisse produire un miracle. Si tu penses au malheur qui t'entoure ou que tu vis peut-être présentement, est-ce que tu serais capable de dire ce matin, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Waouh ! Si je vis telle épreuve, si je vis tel événement, telle chose difficile, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Eh, il n'y a plus de déception là, il n'y a plus d'amertume, mais il y a de la joie. Jésus a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, Marthe ?» Allô ? Ne t'ai-je pas dit ? Ça revient. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu feras comme cette femme avec le prophète Élisée et dire à Jésus, « Jésus, ne me trompe pas. Jésus, ne me dis pas de mensonges. » Jésus ne me dit pas des choses là qui vont amener de la déception dans mon cœur. Non, il n'est pas là pour te décevoir, mais pour que tu puisses voir un miracle dans ta vie. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour dire attention, le miracle, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Non ? Des fois, il y en a qui prient pour gagner au loto, et puis finalement, ils reçoivent une lettre le lendemain. Hey, c'est formidable, Seigneur répond à ma prière. Oui, mais c'est un travail. Et il faut travailler fort. Ben oui, mais tu avais besoin d'argent, le Seigneur t'envoie un travail. Mais j'aurais préféré un chèque. Ben tu auras le chèque après que tu auras travaillé. Comprenez que des fois, Dieu répond à nos prières, pas de la manière dont on avait prévu, mais il répond pareil. Et il y a un miracle pareil. Et je vous rappelle ce qu'il est dit en conclusion dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je relis le même verset dans la Bible en français courant. Et voilà comment ça a été traduit. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. toutes choses contribuent au bien. Ça ne veut pas dire que tout est bien et que tout est bon. Ça veut dire que dans toutes les situations, même les pires dans lesquelles tu peux passer, Dieu veut en ressortir du bien, afin que son nom soit glorifié. Ne choisis pas la déception, l'amertume et avoir un cœur aigri, amer, mais choisis le miracle ce matin et choisis de croire que tout est possible et que même dans la situation la plus tragique, Dieu veut faire un miracle. Et que s'il a permis que telle ou telle affaire t'arrive aujourd'hui, c'est afin d'accomplir un miracle dans ta vie. Tu vas être l'instrument d'un miracle. Dieu va te mettre au centre d'un miracle. Hey, c'est pas encourageant? Seigneur, merci pour le miracle que je vais voir dans ma vie. On peut arriver devant la mer Rouge et de dire, voilà, ça c'est malin. Moïse, tu nous fais sortir d'Égypte, tu nous dis qu'on sera mieux, et voilà qu'on arrive. Il y a la mer ici, et puis voilà, il y a Pharaon qui arrive, et puis on va tous mourir. Merci Seigneur pour la délivrance. On est sorti d'Égypte, mais maintenant on va mourir par l'armée de Pharaon. C'est ça? Des fois on réagit comme ça, hein? Où le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte avec toutes sortes de miracles. Les 10 plaies d'Égypte et toutes ces choses. On dit, waouh, formidable. Et puis dès qu'on arrive devant un obstacle, c'est la mer Rouge là, et puis qu'on a l'ennemi qui nous talonne, on dit, bon, on va mourir. Il y en a même qui disent, c'était mieux en Égypte. Et des fois, on réagit comme ça. Tu peux être déçu ou il peut y avoir un miracle. Si je me souviens bien, la mer Rouge, elle s'est ouverte. Non? Et ils sont passés. Et ça a été tout un miracle. Croyez au miracle ce matin. Dieu fait des miracles. Et dans la situation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu veut faire un miracle. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Nous sommes dans ta présence ce matin encore, Seigneur. Et nous croyons que tu fais des miracles. Nous croyons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous disons ce matin, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons croire que tout est possible. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin pour celui qui est éprouvé comme dans une fournaise, pour celui qui connaît le malheur, la tristesse, qui peut-être comme cette femme a de l'amertume, a de la colère, de la rancune dans son cœur, qui dit, Seigneur, pourquoi ces choses dans ma vie? Je te prie par ta douce présence, par ton esprit, de venir amener la conviction que tu veux te glorifier même dans cette situation. Parce que tes œuvres sont grandes, elles sont merveilleuses. Tu fais encore aujourd'hui des prodiges et des miracles. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs qui sont là et qui peuvent rendre témoignage, c'est vrai. Dieu fait des miracles aujourd'hui encore. Et nous voulons prier pour ceux qui te connaissent mal ou peu. Pour ceux qui vont dire comme cette femme, c'est impossible, ça ne marche pas. Seigneur, je te prie que ton esprit puisse susciter la foi dans ce lieu. Pour dire, je veux croire que le nom de Jésus est grand. Je veux croire qu'en lui j'ai la vie. Je veux croire qu'il délivre, qu'il guérit aujourd'hui encore. Seigneur, je veux prier pour ceux qui sont déçus, tu puisses amener un élan de foi dans ce lieu. Oui, la mer Rouge peut s'ouvrir encore. Que ton nom soit glorifié. Alors qu'on reste dans la prière, j'aimerais, dans un premier temps, faire un appel peut-être pour ceux qui sont là depuis pas longtemps dans l'Église et te poser la question, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu lèves toujours le poing contre Dieu et tu as toutes sortes de choses à reprocher à Dieu? Ou est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes oublis?
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.